crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous examinons l'œuvre dessinée, triturée, hachée, coupée, parfois brossée simplement du grand Victor Hugo. Et plus particulièrement un petit dessin de 17 cm de haut et 25 cm de large, intitulé « Ma destinée » et réalisé en 1857 à la plume, « La vie d'encre brune et gouache sur papier velin ».
Je suis tout heureux et très fier de ce que vous voulez bien penser des choses que j'appelle mes dessins à la plume. J'ai fini par y mêler du crayon, du fusain, de la sépia, du charbon, de la suie et toutes sortes de mixtures bizarres qui arrivent à rendre à peu près ce que j'ai dans l'œil et surtout dans l'esprit. Cela m'amuse, entre deux strophes. Victor Hugo, 1869.
Pour parler de cette œuvre de Victor Hugo, je reçois aujourd'hui Georges Didier Huberman. Bonjour Georges.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va.
Alors vous êtes, nos auditeurs le savent, un philosophe, historien d'art, anthropologue, mais surtout un regardeur obstiné et passionné. Vous êtes maître de conférences depuis les années 90 à l'école des hautes études en sciences sociales et vous avez reçu récemment, l'année dernière, le prix Adorno pour vous récompenser des contributions exceptionnelles dans les domaines de la philosophie, de la musique, du théâtre et du cinéma, et rien que cela. Et vous êtes en effet l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et d'essais mêlant philosophie et histoire de l'art, comme L'œil de l'histoire, composé en 5 tomes et publié entre 2009 et 2015. Vous faites également des expositions. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes auteur d'exposition ou commissaire d'exposition. Auteur serait plus juste, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
De toute façon, j'aime pas le mot commissaire.
Ouais, là c'est affreux, hein, je sais pas pourquoi.
Auteur, non, moi je dirais monteur.
Au sens du monteur de cinéma, de l'utilisation des images.
C'est assez artisanal de faire une expo, c'est pas... Oui, je dirais plutôt monteur d'exposition, mais bon, ça se discute.
Je me souviens en particulier de Atlas, comment porter le monde sur son dos, que vous aviez montré à Madrid, puis à Karlsruhe, etc., Hambourg. Vous avez été co-commissaire d'exposition Nouvelles histoires de fantômes au Palais de Tokyo, en 2014, avec Arnaud Giesinger, et Soulèvement au Jeu de Paume, très belle exposition, en 2016, qui maintenant va partir à Buenos Aires après s'être arrêté à Barcelone.
Tout à fait.
Ça circule, c'est...
Ça va circuler encore, je crois, enfin je suis sûr, à San Paolo cet automne, à Mexico, à Montréal, voilà.
Ça vous prend bien. Autant de temps que vos livres ?
C'est un temps différent. Ce qui est intéressant, c'est que le problème matériel d'une exposition comme celle-là, c'est-à-dire que c'est très cher que tout voyage, donc c'est impossible de faire voyager, par exemple, des énormes tableaux de Zygmunt Polke. En fait, il y a toute une partie de l'exposition à réinventer avec les choses qui sont sur place. Alors, comme Barcelone, Buenos Aires, San Paolo, Mexico, ce sont vraiment des capitales du soulèvement. Je trouve là-bas des... Voilà, ça suppose un travail sur place, mais en plus, les gens sont plutôt contents parce qu'ils voient des choses de leur propre histoire. Mais je précise, puisqu'on doit parler de Victor Hugo, que cette exposition commence avec Victor Hugo.
Avec quelle œuvre ?
Elle commence avec un dessin qui s'intitule « En ramenant la plume ». Donc, Victor Hugo écrivait à la plume.
C'est un double sens.
C'est-à-dire,
hein.
Voilà, avec une plume d'oiseau taillée au bout, comme ça. Mais en ramenant la plume, ça veut dire, eh ben, au lieu de tremper la pointe dans l'encre, je vais tremper les barbes de la plume. Je vais tremper la plume elle-même dans l'encre et je vais l'utiliser comme un pinceau.
Alors, c'est très important. Et puisque nous... Parlons aujourd'hui d'un livre qui vient d'être réédité en 2017, mais qui sont des textes de 2002-2005 à peu près,
oui.
Hein, qui ont été l'objet de cours, de
oui.
publications.
Plutôt en Allemagne.
Plutôt
comme,
en Allemagne.
Comme souvent,
et c'est un
oui.
livre extraordinaire sur Victor Hugo et qui dépasse forcément la question de Victor Hugo pour s'interroger globalement sur le regard, sur l'érotisme, sur le monde du dessous, celui de la sublimation, l'importance. Quand je dis le monde du dessous, c'est parce que je pense à quelque chose que vous rapportez de Victor Hugo, le sublime est en bas. Et c'est une grande question bataillienne, en fait, que vous suggérez ainsi, et qui m'intéresse beaucoup. Ce livre, donc, publié chez Gallimard, s'appelle Ninfa Profunda. Comment est-ce qu'on traduirait cela, Georges Duberman?
Ben, juste avant l'émission, vous avez vous-même dit la nymphe des abysses. Je trouve ça très joli.
Vous le gardez?
Oui, nymphe profonde, nymphe des abysses.
Qu'est-ce que ça veut dire, le sublime est en bas, Georges Duberman?
Ah ben, ça veut dire en particulier que Hugo accorde une très grande importance à l'ombre, à ce qui sombre. Alors ce qui est sombre, mais aussi ce qui sombre. Et que en fait, ce qui m'est apparu dans ce travail, c'est à quel point Victor Hugo était quelqu'un qui s'interrogeait sur ce que c'est la formation des formes.
Exact.
Et les formes, elles viennent, les formes se forment dans le ciel, éventuellement les nuages. Donc quand il décrit comment arrive une tempête, c'est absolument fantastique parce qu'il se passe des choses en haut, mais bien sûr une tempête se forme
en dessous.
Dans dessous. Voilà.
C'est, donc, elle révèle la géologie sous-marine, en fait.
D'ailleurs, merci de faire référence à Bataille, puisque, donc, vous savez que Bataille, c'est très important pour moi. J'ai écrit un livre sur l'informe et la forme chez Bataille, la ressemblance informe. Et justement, ce mot d'informe, il est partout chez Hugo. Et il est partout accompagné, justement, c'est là où c'est extrêmement fin et dialectique sa pensée, toujours accompagné de quelque chose d'humain. L'informe n'est pas une chose absolue, désubjectivée, tout ça. Non, pas du tout. L'informe, c'est ce qu'il y a en dessous, ce par quoi les formes adviennent. Et donc, c'est extrêmement génétique, embryologique, météorologique, enfin tout ce que vous voudrez.
Et c'est lié au destin.
C'est lié au dessin et c'est anthropomorphe. C'est toujours anthropomorphe. Chez Hugo, il regarde une pierre, c'est un personnage. Et ce qui est fantastique, c'est que il regarde la nature comme quelque chose qui est intérieur, mais la réciproque est vraie. Et c'est ça qui est bouleversant. C'est-à-dire que si vous regardez en dedans de vous, vous regardez des tempêtes, des cosmologies, des météorologies, évidemment, vous avez des humeurs, donc c'est de la météorologie, tout ça, oui.
Vous avez raison. Alors, ouais. Je pense que c'est très important ce que vous venez de dire sur la forme qui se constitue par le dessous, et vous allez nous décrire, si vous le voulez bien, le dessin que vous avez choisi pour le mettre en couverture de la nymphe profonde ou de la nymphe des abysses. Et juste avant que vous la décriviez, je voudrais dire un mot qui apparaît dans votre livre et qui correspond à ce que vous venez d'évoquer, qui dit « La vague est un problème extérieur continuellement compliqué par la configuration sous-marine. »
Oui.
Et en fait, l'apparition de la forme est liée à un dessous, je suppose que c'est comme ça qu'on pourrait le commenter, à un dessous, à une géométrie invisible qui la conforme d'une certaine façon.
Il faudrait faire la ligne entre Hugo et Michaud. Hein. La nuit remue constamment chez Hugo. Constamment. Alors, vous me demandez de décrire ce...
Oui, j'aimerais bien.
Je vais être très sommaire parce qu'en fait, il faudrait un poème pour le décrire. J'en suis tout à fait incapable. Là, je veux quand même faire une petite précision. Vous avez présenté au début de l'émission ce dessin comme de 1857. C'est aussi ce qui est écrit dans mon livre. Parce que aussi les éditions Gallimard aiment bien garder les datations habituelles, mais en réalité, si on suit Marie-Laure Prévost, à qui je rends hommage parce qu'elle a dirigé cette magnifique exposition à la Bibliothèque nationale de France qui s'intitulait, je crois, Hugo l'homme océan. Elle dit que c'est un dessin de 1867. Bon, ça, pour nous, ça change pas grand-chose. Simplement que 1966, c'est la date des travailleurs de la mer. Donc, c'est plutôt lié aux travailleurs de la mer. Alors, donc, c'est une feuille plus petite qu'un feuillet A4, hein, pour l'auditeur, s'il s'imagine. C'est du vélin, avec une plume, mais pas fatalement le côté seulement des barbes, des deux côtés, il a dessiné juste une vague. C'est une vague qui se recourbe vers la gauche, comme ça. C'est donc une sorte de poche gigantesque dessinée avec des tas de traits. Sur la crête de la vague, eh bien, il y a de l'écume qui est en fait rendue par de la gouache blanche. Mais alors, la gouache blanche ici, on voit très bien que c'est pas, qu'il n'utilise pas le pinceau du tout. À mon avis, il a dû utiliser un bout de chiffon, un tampon comme ça. Puis vaguement derrière tout ça, est-ce que c'est le plus important ou le moins important? On ne sait pas. Il y a un bateau. Mais on le voit pas,
on
en
le
fait,
voit
à,
pas
à première
coup.
Vue, ouais. On le voit pas. Un bateau bizarrement courbé par la...
Il suit la courbe de la crête.
Vous trouvez pas, hein, il
absolument.
A l'air courbé comme ça. Et donc, il est complètement le jouet de cette grande vague qui va se refermer comme ça. Et en bas, il y a écrit Hugo, d'ailleurs. Et puis, il y a écrit en lettres capitales, ma destinée. Ce qui est donc une manière de regarder le monde extérieur. Si vous dites c'est ma destinée, ça veut dire ce que je vois visuellement devant moi. C'est quelque chose qui parle de ma temporalité à moi aussi. Ma destinée.
C'est ce que vous disiez, très, très que c'était en fait toujours relié à la subjectivité ou au fatum. Vous parlez à un moment donné dans le livre de l'Ananke.
Oui.
Qu'est-ce
oui.
que vous voulez dire par là?
Une vague, on ne sait pas comment elle surgit.
C'est quoi ce mot d'ailleurs?
Ananke, c'est le destin au sens le plus... C'est ce qui arrive... auquel nous ne nous attendions pas. Peut-être les dieux, si on y croit, ils y ont pensé. Et Ananke, Tuke, tous ces mots grecs qui vont vers la question de la temporalité qui se forme plus forte que nous. C'est plus fort que nous. Ça ne veut pas dire que c'est désubjectivé, bien au contraire. Et c'est là où il faut comprendre quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. Parce que Hugo, c'est ce qu'on sert aux enfants à l'école. Moi, quand j'étais petit, je n'arrivais pas à lire Hugo du tout. Hein. J'ai découvert Hugo, au fond, très tard et adulte. Et heureusement, parce que il y a quelque chose que j'ai pu comprendre, me semble-t-il, c'est le côté... C'est un romantique, donc il est beaucoup question des affects, des passions, des forces, des désirs, des deuils. Mais c'est quelqu'un qui regarde les choses de façon morphologique. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante, je pense. C'est de comprendre que les romantiques ne sont pas de doux rêveurs, pas du Je parle de Goethe aussi, par
Mais
exemple.
Oui, je pensais au romantisme allemand, où ils sont à la fois géologues, ils décrivent les paysages, ils s'intéressent à la constitution des choses, à la constitution non seulement des sentiments, mais aussi de la morphogénèse du monde.
Quand Baudelaire parle de l'imagination, il dit c'est tout sauf la fantaisie, c'est pas la fantaisie personnelle. Il y a chez quelqu'un comme Hugo, on va peut-être y revenir si vous voulez, un côté philosophique et morphologique qui nous apprend des choses sur même ce que c'est les fractales, par exemple, aujourd'hui. C'est incroyable. La philosophie des formes de Hugo, elle est tout à fait fascinante et elle se voit dans ses dessins, dans ses poèmes, dans ses romans et dans ses écrits philosophiques.
Rien chez Hugo n'existe qui ne soit... en mouvement. Ce mouvement est un mouvement de métamorphose permanente. Le petit et l'immense se rencontrent. Et c'est peut-être là, dans cette rencontre entre l'immense, le petit, que le fractal apparaît.
Oui, parce que regardez une vague. La vague, c'est une tempête. C'est un détail de tempête. Mais c'est déjà une tempête.
On a l'impression que la tempête de Victor Hugo est une façon pour lui de ramasser les mots qui sont dans sa pensée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 40 questions à vous poser, Georges Duberman. Donc je m'excuse, je commence dans un désordre absolu.
Pas de soucis, c'est excitant. Pas de
soucis. Qu'est-ce qui se passe quand un écrivain qui normalement fait des traits noirs sur un fond blanc inverse les choses, renverse sa plume et fait monter la matière du papier qui va participer à la création et l'apparition des formes? C'est quoi la différence entre les deux?
Mais c'est une très belle question parce qu'en fait, ça raconte l'histoire du rapport qu'on peut avoir à... Je touche ma feuille de papier blanc qui est devant moi. Hein. Ça touche à la question du rapport que nous avons au support de ce que nous allons dire, écrire, exprimer, etc. Il y a, entre moi et ma feuille de papier, il y a une certaine distance. Quand Victor Hugo écrivait, bah, c'était à peu près, sans doute, à peu près la même chose. Il y avait un certain nombre de centimètres vis-à-vis de, entre son visage et cette feuille de papier. Et il faut pas oublier que, en fait, ce qu'il a inventé, c'est un rapport pictural à sa feuille. Moi, je suis fils de peintre et j'ai beaucoup appris d'une toute simple chose du travail du peintre, c'est qu'il ne cesse jamais de s'approcher et de s'éloigner. Il s'approche pour poser sa touche, pour poser son... Et puis, il s'éloigne pour voir. Il s'approche, il s'éloigne, il s'approche. Or, si on prend les choses philosophiquement, il faut dire alors que le travail du peintre, il est dans une espèce d'espace qui est le mouvement constant entre son corps et cette surface de toile blanche ou cette surface de papier blanc sur la table, et que cette épaisseur-là, cette atmosphère, a une fonction formante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la peinture seulement avec le théorique point de vue, point de fuite, machin, chose. C'est très bien, mais si l'on a lu un peu les phénoménologues, Merleau-Ponty, Erwin Strauss, tout ça, on s'aperçoit que cette épaisseur, ce qui se passe entre la feuille et mon corps qui ne cesse de bouger, c'est aussi par ça que l'image se forme.
J'aimerais que l'auditeur vous voie parce que vous faites des mouvements de votre bras qui ressemblent à une mer qui avance et se recule, qui ressemble à une vague qui continue et qui me fait comprendre dans cette pulsion scopique que vous décrivez, finalement, une sorte d'aller-retour du regard qui va prendre dans la matière même de la peinture ou du dessin pour se reculer ensuite et voir l'image apparaître. Je vois une explication que je n'avais pas ressenti tout de suite sur la raison pour laquelle le premier chapitre est consacré au désir. Oui. On a l'impression que dans cette approche et ce recul, il y a un désir de la nymphe, oui, qui se voile et se dévoile et vers laquelle vous allez essayer de transformer la peau en chair.
Alors, c'est très bien d'employer le mot pulsion que vous venez d'employer, parce que pulsion suppose aussi que c'est pulsatif. C'est-à-dire que ça va et ça vient. Alors, dans mes jeunes années, il y a déjà très longtemps, j'avais commenté le récit de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, dans des termes de pulsion et de pulsation. Ou bien, vous connaissez la fable d'Appel qui n'arrive pas à représenter l'écume du cheval, puis finalement il est tellement énervé, il envoie son éponge sur le tableau et il obtient ce qu'il veut. Ce qui veut dire aussi qu'il y a de la pulsion, de la pulsation, et le fait que l'image n'est pas autre chose qu'une dynamique. Une image, c'est pas une architecture. Mais même une architecture, c'est dynamique, évidemment. Mais c'est tout, il faut voir les choses.
C'était pas une chose inerte. Il y a rien d'inerte.
Rien d'inerte. Et encore moins chez Hugo.
Encore évidemment. Moins chez Hugo. Et il y a une sorte d'effet ondoyant comme ça dans les images, et particulièrement d'ailleurs dans les images érotiques d'Hugo. Enfin, c'est corps quasiment dissimulés, dont quelques parties émergent à peine, et qui fait que on s'approche et on recule. Il y a dans l'effet ondoyant de la vague, il y a une sorte d'illusion submergente qu'on doit avoir, je suppose, quand on est submergé par le désir et qu'on a envie de s'approcher de la chair.
Ah oui, oui. Il y a deux odalisques, en particulier des années, justement, les mêmes années 64-65. Et il peint une femme couchée de dos, à moitié nue, comme ça. Puis il peint la même de l'autre côté du feuillet. Elle est couchée de l'autre côté, évidemment, puisqu'il repasse sur les mêmes, l'encre a traversé le support. Alors, ce qui fait que il regarde son papier, il est devant une femme qui est couchée de dos. Il tourne son papier et il la revoit, mais toujours de dos. Il la verra jamais de face, du coup.
On a l'impression, quand il y a cet élan, je l'imagine en train de verser un peu de café, de brosser avec sa, de caresser quasiment le dessin en train d'être fait avec les barbes de sa plume. Il est dans une sorte de transe. Est-ce que c'est quelque chose qui est hallucinatoire? Comment est-ce que vous imaginez, on est dans l'imaginaire forcément, la situation psychique et physique de Hugo travaillant? les dessins?
Alors, beaucoup de ces dessins sont faits dans l'exil. C'est très important. Il est devant la mer pendant une quinzaine d'années, si je me souviens bien maintenant. Oui. Donc, c'est impressionnant. Donc, il est difficile d'imaginer son état psychique, mais ce qui est sûr, c'est que il joue à un jeu extrêmement sérieux, qui est la création des formes. Mais il joue. Et c'est là où il est, dans l'extrait que vous avez cité au début de l'émission, où c'est donc lui qui parle de son...
Remporté de son par art. Baudelaire, oui.
Oui, mais de son art, il accepte à peine que ce soit un art. Donc il y a une très grande modestie chez lui par rapport à la production graphique. Mais dans cette modestie, il y a un élément fondamental que moi j'appellerais une heuristique.
Alors, Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, il y a deux façons de chercher dans la vie. Soit vous avez un axiome, et puis ce que vous cherchez, c'est les applications de cet axiome. C'est-à-dire, ce sont les philosophes qui voient les choses de très haut, ou même éventuellement les artistes. Parce que Vasari, par exemple, dans son histoire de l'art, il a un axiome, hein, l'art imite la nature, point barre. Et donc, tout ce qu'on va voir, c'est une application de cet axiome. Ou bien vous n'avez pas d'axiome. Ça s'appelle l'heuristique. Ça veut dire vous cherchez sans savoir ce que va être le résultat et vous cherchez. Vous obtenez quelque chose, c'est bon, vous gardez, c'est mauvais, vous jetez. Tout simplement, c'est ça. Je vais vous lire un petit texte.
Allez-y.
Là, en arrivant dans le métro, j'ai feuilleté mon propre livre et j'adore ce texte. Hein. Ignorer...
De qui ?
Alors, Victor Hugo parle au fond... On peut l'appliquer à sa technique de dessinateur. Ignorer invite à essayer. Donc, ça veut dire, je ne sais pas peindre comme Goya ou comme Turner, mais je vais essayer. Je suis l'ignorant qui va essayer. L'ignorance est une rêverie et la rêverie curieuse est une force. Donc là, le mot fondamental, hein, force. Savoir déconcerte parfois et déconseille souvent. Gamma savant eût reculé devant le cap des tempêtes. Si Christophe Colomb eût été un bon cosmographe, il n'eût point découvert l'Amérique. On connaît les patiences de l'évasion. Et ça, je trouve ça magnifique parce que tout à coup, il décrit les techniques, vous savez, dans le film de Robert Bresson, Un condamné à mort s'est échappé. Ben, il décrit ça. C'est très beau de dire le modèle de toute expérience, y compris picturale par exemple, c'est une évasion. Alors, je vous lis. On connaît les patiences de l'évasion. On en connaît aussi les industries. L'industrie va jusqu'au miracle. Un prisonnier à Tulle en 1820 coupe du plomb sur la plateforme promenoire de la prison. Avec quel couteau ? On ne peut pas le deviner. Il fait fondre ce plomb. Avec quel feu ? On l'ignore. Il coule ce plomb fondu. Dans quel moule ? On le sait, dans un moule de mie de pain. Avec ce plomb et ce moule, il fait une clé, et avec cette clé, il ouvre une serrure dont il n'avait jamais vu que le trou.
Voilà.
C'est ça l'expérimentation.
Oui,
et c'est l'expérimentation magnifique.
Est-ce que l'expérimentation hugolienne, dans la peinture, peut-être dans l'écriture aussi, mais est une hallucination ? Est-ce qu'elle est hallucinée ? Parce que j'ai l'impression que, par moment, vous parlez de l'hypocondrie de Victor Hugo, comme s'il délirait à partir des symptômes de l'image ou de l'accident du café versé, pour dire les choses.
Je ne suis pas sûr que le mot hallucination soit le bon, mais en revanche, le rapport aux rêves, le rapport aux images dont on se souvient des rêves, le rapport aux fantasmes, évidemment, est absolument crucial. Pourquoi j'ai employé ce mot hypocondrie ?
Oui, pourquoi ?
Pourquoi ? L'hypocondrie, vous avez un petit bobo quelque part, vous avez l'impression que vous avez un cancer. Voilà, c'est ça l'hypocondrie. Bon, c'est une exagération physiologique et anatomique. L'hypocondrie, c'est vos organes deviennent gigantesques. C'est très sexuel d'ailleurs.
Oui, mais tout est...
Dans l'hypocondrie, la douleur elle-même est urgescente, si vous voulez. J'ai emprunté ce mot à un article magistral de Pierre Fédida, le grand psychanalyste. Cet article s'intitulait « L'hypocondrie du rêve ». Et si je me souviens bien, ça aurait été bien d'en parler plus à fond, mais il disait dans cet article que dans le rêve, nos organes sont démesurés. Hein. C'est l'impulsion subjective qui prend des proportions énormes. Ces proportions deviennent objectives d'une certaine façon. Hein. Et Hugo, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça, il exagère.
Oui, il y a une surabondance hugolienne de tout.
Il y a un paysage, et puis tout à coup, au milieu, il y a un soulier, mais qui fait 20 mètres de haut, quoi. Voilà. Il y a cette logique de l'exagération que plus tard, par exemple, Georges Bataille appellera une logique de la dramatisation. Il ne faut pas croire que c'est de la fantaisie. C'est une sorte d'hyperacuité des formes, même des formes objectives. Voyez ? Donc, on ne peut pas parler, je pense, d'une sorte d'hallucination subjective. C'est plus que ça. C'est une hyperesthésie du monde ambiant. Hyperesthésie, c'est-à-dire vous ressentez les choses plus que vous ne les voyez. D'ailleurs, je peux dire, puisque je parlais de Michaud tout à l'heure, que l'un des avantages, en quelque sorte, l'un des effets de la prise de drogue contrôlée et voilà mise en œuvre par quelqu'un comme Michaud, Henri Michaud, sert à une hyperesthésie du monde. C'est-à-dire, c'est objectif, c'est pas fantaisiste. Ça serait la principale leçon à retenir, c'est que Hugo n'a rien d'un romantique au sens habituel du terme. C'est un grand romantique, mais c'est un romantique qui nous apprend, d'abord, c'est un lecteur de Lucrèce, donc c'est un matérialiste, et qui nous apprend de quoi est faite une vague. Et alors, vous me permettez de, peut-être
prie.
Si vous avez d'autres questions, parce que oui. Là, ça me fait,
28
ça me suggère une association d'idées qui me semble très importante, parce que c'est la question de la morphologie. Cette histoire de vague, c'est comme ça que Victor Hugo décrit évidemment une tempête dans la mer. Mais quand il décrit la tempête dans la mer, la force de la vague fait que ce qu'il décrit, c'est une sorte de gigantesque coït. D'ailleurs, toute l'ambiance des travailleurs de la mer, c'est lié au désir. Mais que, quand il se balade dans les rues de Paris en 1832, dans les insurrections parisiennes, les barricades, etc., en fait, il dit c'est une tempête sociale. Et il le dit pas seulement comme une métaphore, il le dit comme une morphologie. C'est très important. Et il le décrit avec une précision incroyable. C'est-à-dire que la façon dont se constitue une barricade, par exemple, qu'elle est détruite, qu'elle se reconstruit plus loin. Ben finalement, vous comprenez qu'une barricade, c'est une vague. C'est pas une forteresse, une barricade. C'est une vague qui avance, qui recule, qui se détruit, qui se reforme. Et donc tout ça, c'est de la... Il vaudrait d'ailleurs mieux dire de la morphogenèse perpétuelle.
Oui, mais qui naît avec une sorte de relation de compétition entre chaos et organisation, désorganisation et monstruosité. On est toujours au bord du monstre, non ?
Constamment, l'informe produit des formes qui sont proliférantes, généreuses, fécondes, ça va dans tous les sens, ça explose. Le vocabulaire baudelairien des fusées, voilà, tout est fusé chez Hugo, ça fuse de partout, quoi. Et donc, c'est de la morphologie énergique. C'est de l'énergie, c'est de la force qui prend forme en permanence. Et la forme, exactement comme une vague, elle s'écroule à nouveau et elle se reforme un peu plus loin.
Écoutons Victor Hugo décrire justement la mer dans L'homme qui rit.
Rien n'est logique et rien ne semble absurde comme l'océan. Cette dispersion de soi-même est inhérente à sa souveraineté et est un des éléments de son ampleur. Le flot est sans cesse pour ou contre. Il ne se noue que pour se dénouer. Un de ses versants attaque, un autre délivre. Pas de vision comme les vagues. Comment peindre ces creux et ces reliefs alternants, réels à peine, ces vallées, ces hamacs, ces évanouissements de poitrail, ces ébauches? Comment exprimer ces alliés de l'écume mélangés de montagnes et de songes? L'indescriptible est là, partout, dans la déchirure, dans le froncement, dans l'inquiétude, dans le démenti personnel, dans le clair-obscur, dans les pendentifs de la nuée, dans les clés de voûte toujours défaites, dans la désagrégation sans lacune et sans rupture, et dans le fracas funèbre que fait toute cette démence. Victor Hugo, l'homme qui rit.
Vous êtes sur France Culture et nous sommes avec Georges Didier Huberman pour examiner l'occasion de la réédition de son livre qui cette fois-ci s'appelle L'Infa Profunda, c'est un recueil d'articles en fait, le travail extraordinaire de Victor Hugo et particulièrement son travail pictural, mais comme on l'entendait à l'instant dans cet extrait de L'Homme qui rit, la correspondance entre son travail pictural et son travail littéraire est extrême, non ? Qu'en pensez-vous, Georges ?
Oui. Pardon, c'est pas un recueil d'articles, hein. C'est vraiment un livre composé comme tel. Et certaines parties sont parues
déjà
comme articles, mais c'est pas un recueil d'articles. Alors, c'est quoi la question, pardon ? Excusez-moi.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une correspondance étroite entre son travail pictural et son travail littéraire ? Est-ce que dans le rapport entre construction et destruction, cette sorte de scénario inouï de du mouvement du monde ?
Tout à fait. C'est l'un dans l'autre en permanence. C'est-à-dire que l'écriture hugolienne est une écriture qui fait justement, puisqu'on employait ce mot à l'instant, fuser les images. Et
vous l'évoquiez au sujet de Baudelaire. Justement.
Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est très important. Et encore une fois. On se penche là sur cette feuille. J'ai dit au début, c'est pas plus grand qu'une feuille à quatre. Donc en fait, il aurait pu très bien prendre la feuille dans l'autre sens, puisque c'est un format allongé. Oui. Il l'aurait pris dans l'autre sens et puis il aurait écrit un poème. Donc les choses vont ensemble. Alors les choses vont ensemble pour une raison très simple. Enfin, pour mille raisons, mais l'une d'elles, c'est que écrire, c'est pas décrire. Écrire et décrire, c'est pas pareil. Et je pense d'ailleurs que peindre et dépeindre, c'est pas pareil. Quand on pense qu'une peinture, ça dépeint, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait au début de cette émission ? On a essayé de décrire très mal, hein, à mon avis, ce dessin. Ce qu'il faudrait, c'est l'écrire, ce dessin, non pas le décrire, parce que le décrire, c'est pauvre. Alors moi, je sais que je suis constamment confronté. Je pense que c'est un problème fondamental. L'histoire de l'art, c'est un genre littéraire. Il faut savoir du côté de quel genre littéraire, de quel style littéraire on va. Si on se contente de décrire formellement, ou bien si on se contente de raconter l'histoire que ça raconte, on s'en sortira difficilement. Et alors, moi, évidemment, me confrontant à quelqu'un qui est un grand maître de l'écriture avec ces espèces de rythmes permanents d'assonance, de dissonance, ça va sans arrêt de la forme à l'informe, et puis justement quand il s'agit d'une tempête, comme je le disais tout à l'heure, le mot énorme n'est jamais très loin, enfin vous voyez, ça rime de partout et ça rythme de partout. Donc la question, c'est toi, historien de l'art, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y a déjà l'immense plaisir tout simple, hein, mais c'est un plaisir incroyable de recopier, parce que j'écris à la main, donc de recopier à la main, puis de recopier sur l'ordinateur des passages de Hugo. C'est tout simplement du plaisir de lecteur et de scripteur. Et puis ensuite, il faut essayer, il y a toujours un défi d'écriture où, au fond, il faudrait que l'écriture quelque part soit empathique avec ce qui est à écrit ou
dans votre livre, ça l'est. Par moments, j'ai senti que vous étiez emporté par le style de Hugo.
Complètement.
Que vous étiez.
Et j'en rajoute.
Et vous en rajoutez un peu, mais ça nous apporte de la jouissance.
C'est peut-être maladroit, mais
vous
en tout cas, je suis emporté par son rythme.
Et c'est très agréable. C'est pour ça que c'est un livre, comme vous le soulignez. C'est qu'on est dans votre commentaire de Hugo. On est dans l'élan qu'Hugo vous donne.
Oui.
Et je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, il y a des sujets. Je voulais vous interroger là-dessus. Il y a des sujets sur lesquels vous vous retrouvez, si je puis dire, dans votre personnalité et votre regard particulier. Par exemple, il y a, je trouve, quand il parle du baiser frénétique des vagues avec les rochers, comme si ce baiser frénétique des vagues avec les rochers était un immense mariage, il y a quelque chose de l'ordre dans le mouvement répété et violent et insistant de la mer. Il y a quelque chose d'épileptique. Il y a quelque chose qui appartient à l'hystérie sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans la tempête une hystérie de la nature?
Complètement. Et je pense que le paradigme hystérique, d'une certaine façon, il ne m'a jamais tout à fait lâché. Enfin, je ne parle pas de moi en tant que personne.
Non, mais votre
je
analyse.
Je parle des choses qui m'intéressent, et notamment, justement, pourquoi cette série Ninfa? Pourquoi une série consacrée à la représentation féminine qui pourrait être infinie, hein? Le point de départ, comme vous le savez, c'est Abby Warburg. C'est Abby Warburg qui reconnaît dans une figure féminine.
Grand historien d'art, peut-être.
Voilà, c'est Warburg et le Freud de l'histoire de l'art, c'est celui qui a changé vraiment les choses. Et Warburg, à un moment donné, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à terminer quoi que ce soit, donc il s'est fixé sur un magnifique problème, le problème qu'il a appelé Ninfa. C'était donc une jeune fille qui apparaissait dans une fresque de Ghirlandaio, mais qui en réalité, vous la voyez partout dans les tableaux de la Renaissance, qui passe, qui sert à rien, en général c'est une servante, et puis elle est environnée de draperies, de... Voilà. Et c'est cet environnement de draperie qui avait fasciné Warburg. Il appelait ça les accessoires en mouvement. C'est pas très joli comme expression, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'autour d'une figure peinte, il y a une sorte d'atmosphère. Et que la draperie, en fait, c'est la création d'un espace en mouvement, d'une atmosphère en mouvement. Donc moi, j'essaye aussi par hommage à Warburg, j'essaie de suivre cette espèce de chemin dans lequel on reconnaît que dans les images de l'art, les contours, on pourrait presque dire les contours n'existent pas. Même chez Mondrian, les contours n'existent pas. Il y a une confusion. Les images nous sont proposées toujours dans un espace où il y a de la confusion. Mais je ne veux pas dire que tout est désordonné.
Non, seulement. Mais elle se dilate vers toutes les autres images, voilà, c'est ça que vous voulez dire.
Que les différentes dimensions se touchent et se compénètrent les unes les autres. Et que ça a beaucoup à voir avec le désir, en effet.
C'est ce que vous dites à un moment donné, l'érotique comme texture fondamentale de sa vie, parlant de Hugo. Oui. Et on sent comment, effectivement, le mouvement du monde et le mouvement de la nymphe et le mouvement de l'Odalis qu'il va représenter, c'est le même mouvement.
Tout à fait. Et même, je dirais que son engagement politique, Hugo, est lié à un mouvement de désir. Il faut, j'ai beaucoup autrefois travaillé sur les mouvements d'accablement et de lamentation et tout ça, mais la réciproque est vraie. Il y a des mouvements de désir qui nous font nous soulever, et si vous voulez, c'est à nous d'être des ouragans.
À condition de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'image, et quand vous êtes ouragan, vous l'êtes à l'égard des images. Et quand vous parlez de Victor Hugo, vous parlez de sa capacité à créer une sorte d'ondoscopie. C'est curieux comme mot.
Endoscopie,
oui. Comme ça. Rentrer à l'intérieur de l'image comme en explorant le dessous du monde, à travers l'image. C'est une drôle de spécialité pour un non-médecin.
Mais... Alors, profunda, ça veut dire que c'est profond. Profond, ça veut dire, est-ce que vous allez rester au bord ou est-ce que vous allez prendre le risque...
D'aller dans la joie énorme de l'abîme, c'est un mot que vous dites.
Exactement, exactement. Mais par exemple, même un archéologue, c'est ce qu'il fait. Hein, il tombe pas dans le trou, mais il creuse. C'est ça le travail de faire en quelque sorte émerger quelque chose du temps. C'est de creuser. Donc, mais c'est un risque évidemment. C'est un
risque. Parce qu'il y a un écueil dans, il y a un écueil dans ce sous la mer. Il y a un écueil. Et curieusement, vous dites à un moment donné chez Victor Hugo, l'écueil c'est la sirène. C'est l'écueil qui vous attire.
Ah bah il y a dans les deux romans, Les Travailleurs de la mer et L'homme qui rit, on tombe dans la mer comme on tombe dans la femme. Et chez Hugo, je parle de Hugo, c'est à la fois l'expression même du désir et l'expression même d'un danger considérable.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « regardez, c'est sombré » Vous faites un rapport entre ombre, sombre, sombré.
Alors, je peux le prendre de plusieurs façons, mais si je dis « regardez, c'est sombré », je veux dire par là que il y a toujours différentes valeurs d'usage de chaque geste qu'on utilise dans la vie. Par exemple, on peut regarder de haut. Quelqu'un qui est méprisant, eh ben, il vous regarde de haut. Quelqu'un qui croit qu'il a la vérité déjà par-devers lui et que vous ne l'avez pas, il vous regarde de haut. Il y a des philosophes qui regardent toute chose de haut et notamment les œuvres d'art. Hein, c'est très facile de regarder une œuvre d'art de haut. Il y a des experts, spécialistes, historiens de l'art, qui regardent les choses à une distance, je dirais, civilisée, correcte, objective, le plus objectif possible. C'est très bien, c'est très important, il faut le faire. Mais aussi, on peut considérer que regarder, c'est se perdre. Regarder, ce n'est pas garder, justement. C'est étrange, regarder, le mot regarder. Mais moi, j'ai toujours ressenti que regarder, c'est au fond se rendre compte tout ce qu'on est en train de perdre au moment où on le regarde. On gagne bien sûr, on bénéficie de cette splendeur, de ce dessin qui est devant nous, c'est évident. Mais en même temps, on perd en certitude, on perd en repères, on perd en mots. Ce qui est fascinant pour moi en tout cas, mais je pense pour vous aussi, c'est que quand on découvre une nouvelle œuvre d'art, on perd ses mots. Donc il faut refaire son langage. Donc c'est la plus belle machine à devenir écrivain.
La dissolution du langage dans l'immanence de l'œuvre, c'est un mot que vous utilisez souvent, le mot immanence à propos de Victor Hugo.
Tout à fait.
Et peut-être que ce mot, ça vaudrait la peine que vous nous l'expliquiez.
Immanence, être au ras des choses, être dans le creux de la vague et non pas au-dessus de la vague. Immanence, c'est une position philosophique. Et là, un élément, disons, d'histoire intellectuelle qui est très important qui m'est apparu très important, c'est Hugo en tant que lecteur de Lucrèce. C'est très, très important. Lucrèce, philosophe matérialiste de l'Antiquité.
Dont il a fait un portrait, d'ailleurs.
Dont il a fait
avec
un portrait.
Une bouche d'ombre.
Il ne faut pas oublier que Lucrèce, par exemple, à la Renaissance, c'était l'absolu. Pourquoi c'était l'absolu? Parce que c'est un système philosophique complet qui est rédigé dans un seul poème, en vers. Donc c'était parfait pour Hugo. Donc il y a cet aspect donc d'une certaine philosophie matérialiste et donc de l'immanence, c'est-à-dire ne pas chercher ce qui est là-bas, derrière, au-delà, Dieu, tout ça. Il y a bien sûr Dieu, il y a les esprits, tout ça chez Hugo, mais fondamentalement, quand il regarde une vague, il est dedans. Quand il regarde une femme, pardonnez-moi l'expression, il est très vite dedans.
On sent cet incroyable appétit pour la fusis du monde, une sorte de goût de d'effusion pour épouser l'énergie du monde et lui ressembler.
Absolument. Absolument, c'est une question d'énergie et quand on travaille sur des sujets différents comme c'est mon cas, on voit des auteurs ou des écrivains ou des peintres qui vous donnent de l'énergie et puis d'autres qui vous en enlèvent. Enfin, bon, Hugo, il vous donne une énergie incroyable parce que il y a que ça qui l'intéresse en fait, c'est l'énergie.
Et alors, il y a quelque chose d'étrange aussi que vous avez souligné très vite dans le livre, c'est le rapport entre le l'indifférenciation entre le laid et le beau, entre l'horrible et le sublime, entre, je pense par exemple à quelque chose que vous avez souligné tout de suite, c'est Hugo que vous citez, il y a des chefs-d'œuvre hideux, l'araignée et le crapaud, comme des chefs-d'œuvre splendides, l'astre ou la femme, et un petit peu avant, il disait quelque chose, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre.
Magnifique.
Je trouve ça extraordinaire.
Oui. Oui.
On a l'impression de lire un texte sur le crachat de bataille.
Exactement, mais dans le texte sur l'informe de bataille, il y a le crachat et, rappelez-vous, il y a l'araignée aussi. Écraser une araignée. Donc, on est très près. On est très près. Alors, pour répondre rapidement à votre question, l'idée, c'est très simple. L'esthétique, si vous considérez que c'est une science du beau, et qu'il faut trouver les critères de ce qui est l'œuvre art et pas art, bon bah là, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Si vous considérez que l'esthétique, c'est la discipline qui est, vous parle du monde sensible, et le monde sensible, le monde des sensations, le monde des sentiments, le monde des visuels, le monde auditif, le monde gustatif, tactile, bon, si vous considérez que l'esthétique, c'est la science ou une tentative de connaissance du monde sensible, alors là, les critères académiques, beau, laid, tout ça, ça n'a strictement aucun. Même les critères spatiaux du style, est-ce que c'est loin ou est-ce que c'est près? Quand vous êtes dans une vague, ou même quand Victor Hugo raconte de façon sublime l'homme devant la femme, il est loin ou il est près?
Ça me fait penser à un très beau texte, Le Promontoire des rêves, où il fait cette expérience de regarder à travers un télescope une planète, la Lune, je crois.
Exactement.
Et là, on ne sait pas s'il est loin ou il est près, mais il est dans cette vie grouillante peut-être, là-bas.
Il accumulait les expériences visuelles. Par exemple, il a pris un train un jour, c'est dans Chose Vue, je crois. Il a pris un train, et puis il décrit la transformation du monde visuel, toutes les herbes et les fleurs qui deviennent de la peinture abstraite, si vous voulez, en gros, qui est un mouvement complètement abstrait. On sait aujourd'hui que le train a avancé à 15 km/h. Donc, parce que quand il le décrit, on a l'impression que le train était un TGV, non?
C'est TGV incroyable. Inouï, comme
oui,
on dit
voilà,
maintenant.
Voilà. Donc, il y a aussi cette espèce ce que j'ai appelé une hyperesthésie, une hypersensibilité devant le monde visuel, qui est fascinante.
Pierre Fédida parle, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, vous le citez à nouveau dans votre livre, il parle lui aussi de l'immanence, et il dit qu'il y a chez Victor Hugo une dissolution dans l'immanence, une étroite conjonction entre le travail de grossesse, la dilatation, et le travail du deuil, la dissolution.
C'est une magnifique remarque. Il dit ça à propos du rêve.
En effet.
Pierre Fédida. Il ne dit pas ça à propos de Hugo. Hein. Le texte n'est pas sur Hugo.
Mais c'est vous l'avez cité dans le livre. Alors évidemment, j'ai
Et alors, en effet, c'est fascinant. C'est même troublant de penser qu'il y a un rapport entre un travail de grossesse, c'est-à-dire la forme naît. Hein. L'embryologie est partout chez Hugo, hein, à toutes les dimensions. Et puis quelque chose qui a à voir avec le deuil. Parce que aussi, on ne cesse pas de perdre.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, c'est pour ça que, comment dire, d'un point de vue épistémologique, les historiens de l'art devraient savoir aussi ce qu'ils perdent. Nous gagnons beaucoup, nous avons plein d'outils, formidable. Mais nous perdons, et que cette perte-là nous dit quelque chose de l'humanité en général.
Écoutons, je vous propose, Georges, si vous êtes d'accord, Baudelaire, à nouveau, à propos de Victor Hugo.
De cette faculté d'absorption de la vie extérieure, unique par son ampleur, et de cette autre faculté puissante de méditation, est résulté dans Victor Hugo un caractère poétique très particulier, interrogatif, mystérieux, et comme la nature, immense et minutieux, calme et agité. De là, ces turbulences, ces accumulations, ces écroulements de vers, ces masses d'images orageuses emportées avec la vitesse d'un chaos qui fuit. De là, ces répétitions fréquentes de mots, tous destinés à exprimer des ténèbres captivantes ou l'énigmatique physionomie du mystère. Ainsi, Victor Hugo possède non seulement la grandeur, mais l'universalité. Que son répertoire est varié, et quoique toujours un et compact, comme il est multiforme. En tout, il met la palpitation de la vie. S'il peint la mer, aucune marine n'égalera les siennes. Les navires qui enrayent la surface ou qui en traversent les bouillonnements auront plus que tous ceux de tout autre peintre cette physionomie de lutteur passionné, ce caractère de volonté et d'animalité qui se dégage si mystérieusement. La force l'enchante et l'enivre. Il va vers elle comme vers une parente, attraction fraternelle. Ainsi est-il emporté irrésistiblement vers tout symbole de l'infini, la mer, le ciel. Il se meut dans l'immense. Germination, éclosion, floraison, éruptions successives, simultanées, lentes ou soudaines, progressives ou complètes. Charles Baudelaire, 1861.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et je suis avec le philosophe, historien, anthropologue Jordi Duberman pour évoquer Victor Hugo et nous venons d'entendre ensemble un très beau texte de Baudelaire sur Victor Hugo. Je vous sentais vous réjouir en l'écoutant.
C'est aussi beau que Victor Hugo. Oui. Voilà, c'est très très beau et c'est très juste en plus, cette histoire d'absorption de la vie extérieure qui justement contredit toutes nos notions de ce qui est dedans ou dehors, de ce qui est loin ou près. Et au fond, est-ce que c'est pas ça une image ? C'est cette espèce de vertige des coordonnées spatiales habituelles. Voilà. C'est ça la... Et d'ailleurs, tiens, j'y pense, Deleuze ne disait pas autre chose, parce que Deleuze, dans Différence et Répétition, il fait la différence entre l'extensum, l'espace objectif, et le spatium, c'est-à-dire la profondeur, ce qui reprend quelque chose de Merleau-Ponty, là, d'ailleurs, sans doute. Mais vous voyez, on est devant une image de ce genre, on n'est pas dans de l'espace mesurable, on est dans quelque chose qui suppose ce mouvement dont parle Baudelaire d'absorption, ce qui fait que c'est à la fois objectif et subjectif. Les critiques d'art, ils se sont complètement trompés quand ils ont mis l'informe dans une case, et puis voilà. Là, ce dont nous avons affaire, là, c'est de l'informe anthropomorphe. Quand les images arrivent à mettre ensemble des choses qui semblent contradictoires pour la pensée logique, alors là, c'est bon en général. C'est très très bien.
Et tout devient analogique aussi chez Victor Hugo.
Oui, mais alors...
Visuellement, donc, une tâche devient ceci, oui. une forme devient une émotion, une...
Alors, il y a deux...
Il y a un démon de l'analogie.
Il y a un démon de l'analogie, sans aucun doute. D'ailleurs, bon, il y a ce fameux texte qui porte ce titre de Mallarmé qui est pas très loin, hein. Mais... Alors du coup, on est devant une alternative, ou bien l'analogie de toute chose avec toute chose. C'est votre subjectivité, c'est une projection, c'est faible. Ou bien l'analogie, comme je le crois, en ce qui concerne Hugo, Baudelaire ou Goethe, ou bien l'analogie, c'est la perception d'une morphologie que les gens ne voient pas en général.
Oui.
Et là, l'analogie a une fonction... je dirais, de vérité.
L'exploration, c'est ce que dit Baudelaire, l'exploration de captivante, de l'énigmatique physionomie du mystère. C'est quelque chose comme cela. Et il se trouve que Victor Hugo, à ce moment-là, précède, accompagne des scientifiques, des chercheurs qui explorent des choses assez voisines. Je pense à Haeckel pour les fonds sous-marins, à Rorschach quelques années plus tard pour les tests. C'est des processus physiologiques, psychiques, un petit peu semblables. Non,
les formes de Galé, par exemple.
Les formes de Galé.
Les formes de Galé, les formes de Kandinsky, dans ces traités théoriques, vous avez des formes comme ça.
Biomorphiques,
oui, toute la question du biomorphique. Il y a un très bon livre là-dessus. Récemment là, mais Voilà, bien sûr, le biomorphisme, c'est une question essentielle de cette époque, et elle va continuer jusque dans le XXe siècle, parce que, au fond, la question que pose le mathématicien contemporain René Thom, c'est une question de biomorphisme et de morphogenèse.
René Thom, donc, qui travaille sur la catastrophe, qui est entre les fractales et la catastrophe, d'une certaine façon.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on est assez près, dans le sens mathématique et dans le sens physique de la catastrophe.
Tout à fait. Et donc, d'une certaine façon, on est à la pointe des problèmes, je dirais, de l'objectivité scientifique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une forme qui se déforme, qui passe à une autre forme?
Ça me fait penser à quelque chose qui me fait sourire, parce que je me souviens que j'ai lu ça dans votre livre. À un moment donné, vous soulignez le propos de Hugo sur l'exactitude des nuages.
Oui.
Je trouve ça extraordinairement paradoxal.
Magnifique, oui. Et c'est l'exactitude des nuages, il fait des nuages des savants. Il dit pas seulement que ce sont des formes exactes, il dit que les nuages sont des espèces des organismes qui savent exactement, avec exactitude, comment se mouvoir et comment se transformer. Tout ça, c'est une question de métamorphose.
Et vous avez raison dans la comparaison avec le romantisme allemand. Goethe se passionnait aussi pour les nuages, les travaux de Coward, et c'était une des grandes questions. La forme et informe, là, apparaît comme un débat entre la nécessité et le hasard.
D'accord. Et en plus, chez Warburg, je reviens à mon historien de l'art préféré, il y a cette notion très étonnante d'anthropomorphisme abstrait.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, on se demande ce que lui voulait dire. C'est lui qui l'a dit. Mais c'est l'idée que dans un ornement, dans une forme supposée abstraite, et encore plus si on est devant un Jackson Pollock ou ce qu'on peut appeler l'informe, il y a quelque chose qui nous fait signe vers le corps humain. Et donc vers l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est souvent qualifié, encore une fois, de façon négative. Hein. C'est une projection. Mais voilà, à mon avis, c'est à repenser les rapports entre l'informe et l'anthropomorphisme.
Certainement, Hugo nous apprend beaucoup là-dessus, sur cette relation entre l'informe, l'anthropomorphisme, le chimérique, l'hallucinatoire, la prolifération des ressemblances et les nécessités des formes. Le livre que vous nous avez proposé nous éclaire beaucoup là-dessus, il est magnifique. Merci beaucoup Georges Didier Berman.
Merci beaucoup à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était donc Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine, et aujourd'hui nous avons observé Ma Destinée, un dessin de 1857 ou peut-être 67, soulignait Georges Duberman, réalisé par Victor Hugo et conservé à Paris, à la maison de Victor Hugo. Et l'œuvre peinte de Hugo est donc le sujet du livre de notre invité, Georges Duberman, auteur de Ninfa Profunda, essai sur le drapé Tourmente, sorti aux éditions Gallimard. Vous retrouverez toutes les références des livres, celui-ci et les autres, et des musiques sur le site franceculture.fr. Et je profite de cela pour remercier Sylvia Favre, notre attachée d'émission et du site internet. Lecture des textes, Georges Claes. À la technique, Delphine Baudet. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean de Loisy.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go.